Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, S comme Sternberg, Joseph von Sternberg avec Emmanuel Burdeau, Pascal Merigeau et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Plan Large qui ouvre ce jour le troisième volume de son encyclopédie vivante du cinéma. Le cinéma, quel que soit son âge, se vit toujours au présent, en témoigne le formidable succès avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs de la rétrospective Ozu qui depuis un mois enchante avec ses paraboles universelles les écrans estivaux. Ozu, comme beaucoup de cinéastes japonais, était un fervent admirateur de Joseph von Sternberg. C'est sans doute pour ça que le plus esthète, le plus dandy, le plus fétichiste des cinéastes classiques hollywoodiens tourna au Japon son ultime chef-d'œuvre, son meilleur film selon lui, Anata Ann, condensé de sa manière, de ses motifs et de ses obsessions, mais aussi échec critique et commercial, qui mit un terme à sa carrière. Le film ressort en salle mercredi prochain dans une sublime copie restaurée dans sa version intégrale et non censurée. L'occasion rêvée pour Plan Large de se replonger dans une œuvre sulfureuse et luxuriante, exotique et universelle, baroque et proche de l'abstraction, un cinéma de la cruauté et de l'humiliation, mais aussi de l'amour fou et du sacrifice passionnel. Joseph von Sternberg, inventeur en 7 films de L'Ange Bleu à La Femme et le Pantin, du mythe Marlène Dietrich, est un paradoxe, une anomalie, à la fois incarnation du démiurge hollywoodien et cinéaste maudit qui n'eut de cesse de se libérer de la contrainte des studios pour obtenir le contrôle absolu de ses films. De fait, son œuvre à la remarquable cohérence thématique et stylistique semble à rien négligée par les histoires du cinéma. Pour y remédier, aujourd'hui, dans Plan Large, deux fervents Sternbergiens, tous deux critiques et écrivains de cinéma, Emmanuel Burdeau, qui il y a 3 ans a profité de sa résidence à la Villa Kujoyama pour mener des recherches sur Anata Ann en prévision d'un livre qu'on lira peut-être un jour, et Pascal Merigeau, auteur dans ses premières années de critique d'un livre sur Joseph von Sternberg et dont Anata Ann reste un des films fétiches. Cruauté et humiliation toujours. En fin d'émission, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, nous racontera comment le milieu du cinéma russe réagit aux persécutions que subissent les cinéastes Oleg Sentsov et Kirill Serebrennikov. Mais pour l'heure, cap sur une petite île de l'archipel des Mariannes, à quelques 2000 km du Japon, Anata Ann.
Keiko was gone. She had been absent all night. This was a serious defection. Keiko missing? Kusakabe was more out of his mind than usual.
Keiko! Keiko! Keiko!
Emmanuel Burdeau, c'est à Kyoto qu'a été tourné Anata Ann. On le racontera tout à l'heure dans un vaste studio. C'est pour cette raison que vous êtes allé à la Villa Kujoyama à Kyoto pour enquêter sur le film. C'est un film qui vous fascinait depuis longtemps?
Bah, disons que les deux se sont bien rencontrés. Kyoto, je connaissais pas Kyoto, mais j'étais très attiré par la ville. Et comme beaucoup de cinéphiles, ce film avait pour moi une aura particulière. Et il se trouve que, bah, vous le disiez un peu en commençant, moi, comme énormément de gens, j'admire énormément Sternberg. J'ai toujours été frappé par le fait que c'est un cinéaste dont l'importance historique n'est absolument pas contestée. Bon, Marlène. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un cinéaste qu'on remet jamais au travail. Voilà, comme si c'était une évidence. Or, Bah, vous l'avez dit, c'est un cas tout à fait exceptionnel qu'on pourrait rapprocher d'une certaine manière de Stroheim. Donc moi, voilà, quand on travaille, on se demande un peu quels sont les cinéastes de l'histoire sur lesquels il y a des choses à faire ou qui sont, disons, tellement bien rangés à leur place qu'au fond, on les a un peu oubliés. Et Sternberg m'a toujours frappé énormément pour ça. J'ai l'impression que... bon, on va parler d'Anatane, qui est un cas à part, qui fait partie de ces fameux derniers films. Je sais pas, on pourrait comparer à Gertrude ou à Frontières chinoises de John Ford. Bon, mais
Gertrude de Dreyer.
Pardon.
Gertrude de Dreyer. Je précise aux auditeurs qui n'avaient pas écouté notre émission sur Dreyer la saison dernière.
Et c'est rare, je crois. Alors, il y a eu une rétrospective Sternberg récemment à la Cinémathèque. Il y a Anatane qui ressort. Peut-être ça va changer, mais c'est rare de voir un cinéaste américain ou pas américain se revendiquer Sternberg. Voilà, moi j'avais envie de travailler là-dessus. Et Anatane est un cas absolument exceptionnel, qui en plus a des résonances, il me semble, avec aujourd'hui. Je parle pas de son thème, mais aujourd'hui on est dans un cinéma bien davantage mondialisé, où le fait qu'un Américain fasse un film au Japon ou un Taïwanais à Paris est un truc qui se trouve toujours. À l'époque, c'était exceptionnel. Ce qui était encore plus exceptionnel, c'est ce qu'on a commencé d'entendre un peu dans l'extrait, c'est le recours à ce commentaire
voilà, on y
dit
viendra,
par Sternberg lui-même. On va en parler, bien sûr.
On y viendra tout à l'heure, mais j'imagine que quand vous êtes allé au Japon enquêter donc sur ce film, les réactions dans le milieu du cinéma japonais ont été un peu interloquées pour le minimum. Alors que ce que vous avez découvert, ce qu'on a découvert depuis, c'est que dès les années 20, dès la deuxième moitié des années 20, Sternberg est non seulement très connu au Japon, mais on l'étudie.
Ouais.
On dissèque ses films pour savoir comment faire un bon film.
Alors, moi, ce que j'ai découvert ou appris est d'une certaine manière toujours un peu de seconde main, parce que je ne parle pas japonais, et là, c'est que quand même, ça pose un problème. Mais ce que j'ai vu, notamment en profitant du travail d'une chercheuse qui avait fait ses études à Los Angeles, qui est ensuite rentrée au Japon.
Sachiko Mizuno.
Merci, parce que son nom m'échappait pendant un instant. C'est qu'effectivement, Sternberg a été le cinéaste américain le plus important pour le Japon. C'est un de ses films, j'ai oublié lequel, qui a été pour la première fois distribué au Japon.
Les Damnés de l'Océan.
Les Damnés de l'Océan, merci. Alors, non, parce que Les Damnés de l'Océan, c'est un film, mais je parle de la première fois qu'un film a été distribué avec des sous-titres, c'est un film de Sternberg. On pourrait même supposer que Sternberg est responsable, indirectement, de la mise au chômage du frère de Kurosawa, qui était bonimenteur et qui s'est suicidé. Mais enfin, ne rentrons pas dans le... Et il a eu une importance extrême. Des cinéastes ont étudié ces films, certains de ces derniers films muets qui sont absolument remarquables, intertitre par intertitre, plan par plan. Voilà. Quand il est arrivé au Japon au début des années 50, il a été accueilli. Alors non seulement c'était quelqu'un qui avait une très haute idée de lui-même, mais en plus il a été accueilli par un Japon qui sortant de la défaite et avec l'admiration qu'il avait que ce pays et le cinéma de ce pays avait pour Sternberg, il a été accueilli en très grande pompe. Ensuite, ça a été une dégringolade parce que le milieu du cinéma japonais, l'équipe qu'il a réunie et qu'il a réunie évidemment uniquement selon son bon vouloir, n'a absolument pas compris quel était le film qu'il voulait faire. On va en parler. Si bien qu'à la sortie, ça a été une catastrophe et qu'une partie de la critique, telle qu'on peut le recomposer aujourd'hui, était très embarrassée de devoir faire part d'une déception à l'égard de quelqu'un qu'elle avait porté extrêmement, extrêmement haut. S'ajoute à ça, mais je pense qu'on va en parler, ou plutôt vient avant ça, le choix du thème
voilà,
qui est très problématique.
On va en parler tout à l'heure, c'est vrai que c'est un thème un peu embarrassant pour le Japon de l'époque. Pascal Mérigeau, si Sternberg est si connu au Japon, je l'ai dit tout à l'heure, dès la deuxième moitié des années 20, c'est que, et c'est vrai qu'on l'oublie un peu parce qu'on se focalise sur la période des films avec Marlène Dietrich, c'est un très grand cinéaste du muet. Il fait partie de ces cinéastes comme Murnau avec l'Aurore, par exemple, qui ont porté au sommet absolu les possibilités du cinéma sans bande-son enregistrée directement, notamment avec ce film auquel je faisais référence, Les Damnés de l'Océan.
Oui, qui est un des sommets du cinéma tout court, simplement, puisqu'on peut penser que le muet est arrivé à un point de perfection en 27-28, juste avant le parlant, que peut-être le cinéma n'a jamais retrouvé d'une certaine façon. Enfin, il est devenu autre chose, mais dans cette direction-là, il n'est pas... Et Les Damnés de l'Océan, en effet, est un des plus grands films muets. Il y a aussi Les Nuits de Underground.
Les Nuits de Chicago.
Les Nuits de Chicago.
Où il invente quasiment le genre film de gangster.
Et qui, lui, est un immense succès. C'est ce qui marque, ce qui installe Sternberg. Mais ce qui est fascinant dans la carrière de Sternberg, c'est qu'il est passé sans arrêt de la gloire à la déchéance, De la déchéance à la déchéance.
Il y a cette histoire incroyable de films commandés par Chaplin, produits par Chaplin, La Mouette, et que Chaplin enterre, que personne ne verra jamais.
Qui n'a rien à voir avec Tchekhov, et c'est le film produit dans les conditions, entre guillemets, normales, qui a été vu par le moins de spectateurs, puisqu'il n'y a eu qu'une projection. Et à la suite de ça, sans qu'on sache très bien pourquoi, Chaplin a décidé de l'enfermer dans ses caves. On n'a plus jamais revu le film. Il a probablement été détruit, mais moi, j'espère toujours qu'on le retrouvera un jour. Mais cela dit, par ailleurs, Sternberg est sans doute le grand cinéaste qui compte le plus de films disparus, donc ce qui fait, au temps du muet, c'est assez logique, beaucoup de films ont disparu du temps du muet, mais aussi beaucoup de films inachevés. Le High Claudius, produit par Alexandre Corda avec Charles Laughton et Mary O'Brien, ce qu'on en voit est absolument sublime, mais c'est un film inachevé. Il a été viré des tournages, il a remplacé des gens, enfin c'est une carrière insensée. Sternberg, c'est le système a sans arrêt, tout au long de sa vie, lui a sans arrêt demandé de faire la preuve qu'il pouvait être un simple exécutant. Et ça, c'est assez fascinant. Pour qui ? Emmanuel avait raison de dire qu'il n'y a pas d'études sur Sternberg, plus d'études. J'en ai commis une il y a quelques années, mais il n'y a pas non plus d'études sur Stroheim. Donc, je veux dire, le cinéma est très peu étudié.
Oui, mais le lien
mais c'est vrai, qui voudrait étudier les relations du système avec l'individu, avec l'artiste, Sternberg et Stroheim sont sans... Et Sternberg, prenant le nom de... Enfin, s'inventant un fun à la suite de Stroheim,
une aristocratie,
etc., c'est la même chose.
Oui, parce qu'il faut préciser,
les deux sont liés.
Il faut préciser que, malgré son nom, Sternberg est un cinéaste américain. Enfin, il est d'origine autrichienne.
Il vient loin.
Il a immigré à 7 ans aux États-Unis. Il vient d'une famille juive. C'est Jonas Sternberg avant de devenir Joseph von Sternberg. Donc c'est un cinéaste américain. Et pourtant, c'est en Allemagne, fin 1929, que Sternberg va tourner le film qui va le rendre célèbre dans le monde entier et qui va l'inscrire là pour de bon dans l'histoire du cinéma.
Kommen Sie mal ein bisschen mit.
Warum?
In die Fremdenloge.
Weshalb?
Also, Sie wollen doch die Lola singen hören.
Lola?
Ja.
Ja. Lola.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine Augen, was sprechen denn sie? Bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur.
Hey! Husch! Meine verehrten Damen und Herren, ich gestatte mir, Ihnen unseren heutigen Ehrengast vorzustellen. Dr. Emanuel Rath, Professor am hiesigen Gymnasium.
Na, wenn schon!
Voilà, je suis faite pour l'amour des pieds à la tête, et si les hommes se brûlent comme des papillons à mon contact, eh bien ce n'est pas de ma faute. C'est l'apparition iconique de Marlène Dietrich assise sur son tonneau, jupon relevé sur de longues jambes gainées de bas et chapeau claque sur la tête. C'est évidemment l'ange bleu, la descente aux enfers d'un respectable professeur de lycée, le docteur Emmanuel Rath, qu'on a entendu présenté par le patron du cabaret. Une descente aux enfers par amour pour cette envoûtante chanteuse de cabaret, la belle Lola, on oublie un peu d'ailleurs que le film au départ est un véhicule, comme on dit aujourd'hui, pour Emil Jannings, la star absolue du cinéma allemand et américain d'ailleurs.
Le film s'appelait du titre du roman, Professeur Unrath.
Voilà, Professeur Unrath. Alors maintenant, on se souvient de l'apparition, la découverte de Sternberg. C'est un film charnière pour Sternberg. On a l'impression que la première partie muette, et même les premiers films même parlants qu'il a fait aux États-Unis, sont, on dira, plus réalistes, plus romantiques. Et là, on part complètement dans le roman. Dans une œuvre délibérément antinaturaliste, Pascal Mérigeau.
C'est un tournant essentiel comme dans toute l'histoire du cinéma, enfin pour tout le cinéma, le basculement du parlant. Mais c'est vrai que, cela dit, il faut être très prudent quand on parle de Sternberg, comme de tout le monde, mais d'encore plus de Sternberg, c'est qu'il y a beaucoup de ses films qu'on ne connaît pas. Donc, cette dimension onirique, etc., Je pense qu'elle était quelque part dans certains films, peut-être dans The Seagull, c'est ce qu'on les quelques traces que l'on a de cette projection laisse à penser que c'était en effet très onirique aussi, donc je ne sais pas. Mais il y a un malentendu à propos de L'Ange Bleu, qui est qu'on a voulu inventer le personnage de la femme fatale, Marlène femme fatale. Or, ma femme fatale, elle l'est un peu dans L'Ange Bleu, mais à peine, mais elle n'est pas le personnage principal, mais elle l'est absolument plus dans les autres films de Sternberg, elle est même plutôt une victime. Elle est victime sans arrêt. Donc ça, c'est un des malentendus, comme celui qui consiste à donner à Lola Lola le surnom de L'Ange Bleu, alors que c'est le nom du cabaret.
Quoi. Voilà, bah, il se met en place tout de même un dispositif éminemment sternbergien, Emmanuel Burdeau, dans ce film, c'est le triangle amoureux des hommes qui se battent pour une femme, ou en tout cas qui tombent dans la déchéance, souvent à cause d'elle, avec une femme qui, de plus en plus, est tellement idéalisée qu'elle en devient une idée presque, enfin qu'elle devient inaccessible totalement. C'est ce qui va se reconfigurer, on en reparlera encore dans Anatane, où là ça va se démultiplier.
Oui, c'est vrai, mais je réfléchissais à ce que disait Pascal Mirejoie à l'instant. C'est vrai que c'est très juste et que moi-même j'avais complètement oublié qu'en effet, dans les films, souvent, c'est vrai dans Agent X-27, c'est vrai dans Shanghai Express aussi, en effet. Dans Anatane, c'est différent. Cette idée qu'on a gardée de la femme fatale, je ne fais que répéter ce que vous dites, n'est pas tout à fait juste. Bon. Ce qui est très fort dans L'Ange Bleu, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est toujours très fort chez Sternberg, c'est que vous l'avez dit, il incarne, et c'est peut-être aussi pour ça que l'image qu'on a de lui est restée un peu fixe, il incarne l'esthète du cinéma, celui qui voulait tout contrôler. On sait qu'il était lui-même, disons, il avait le savoir d'un chef opérateur, il donnait des leçons à ses chefs opérateurs. Il y a des documents célèbres où on le voit dans le cadre d'un entretien filmé, expliquer aux techniciens comment est-ce qu'il faut le filmer pour qu'il soit bien mis en valeur, enfin donner des leçons. Voilà. Il considérait que pour faire du cinéma, il fallait absolument avoir tous les savoirs. Donc il incarne vraiment dans un milieu qui n'est pas vraiment fait pour ça, la figure de l'artiste. Et en même temps, il y a un réalisme chez lui qui est très très prononcé. Moi, j'ai toujours été très frappé de voir qu'à chaque fois qu'on demandait à Sternberg quels étaient les romans qu'il rêvait d'adapter, alors évidemment, c'était pour prendre le contre-pied, parce que ouais, c'était un personnage en couleur, on l'a dit, au lieu de répondre que son rêve, c'était d'adapter Huysmans, ou il disait, moi, ce que je voudrais, c'est adapter Zola.
Germinal.
Il a adapté la tragédie américaine de.
Oui. C'est ça, américaine. Il l'a pas choisi. Hein.
Il l'a pas choisi. Bon, il a adapté.
Il a repris le projet qui était celui d'Eisenstein.
C'est quand même un beau film. Il a adapté. Oui. Ça, film que je n'ai pas revu depuis un certain temps, donc j'ai pas gardé un très très grand souvenir. Qui écrit Mes Châtiments avec Peter Lorre. Il me semble que c'est pas un de ses meilleurs films. Donc il y a cette dimension là que je trouve très et L'Ange Bleu, c'est un film dans lequel pardon, je réponds pas tellement à la question, mais dans lequel la matérialité est extrêmement forte. Bien sûr, les costumes pour leur fétichisme, mais aussi pour leur poids, les étoffes, le maquillage, la lente transformation qui va culminer en espèce de cri de coq, je crois, de Emily Hennings, du professeur Unrat en animal de scène est absolument extraordinaire.
À propos de Huysmans, c'est une petite chose, parce que c'est vrai qu'on fait le lien beaucoup avec Huysmans, mais là encore, un film disparu qui s'appelait The Case of Lena Smith.
Oui, dont il reste 5-6 minutes, je crois.
Ce qui est très étonnant, c'est que le synopsis du film, c'est pratiquement un roman de Huysmans, mais un roman première période, donc période naturaliste, qui s'appelle Marthe, histoire d'une fille. Et donc le lien avec Huysmans se fait aussi dans le réalisme. Mmh. C'est assez étonnant.
Alors, ce n'est pas avec L'Ange Bleu que les Américains découvrent Marlène Dietrich, hein, c'est avec Morocco, le film qu'ils vont tourner ensuite, puisque avant même que L'Ange Bleu ne sorte, la Paramount fait signer un contrat à Marlène Dietrich, et le soir de la première à Berlin de L'Ange Bleu, elle s'en va aux États-Unis tourner Morocco. Donc Morocco, un film qui se passe, comme son nom l'indique, au Maroc, encore un triangle amoureux. Marlène Dietrich joue une chanteuse de cabaret, Amie Jolie, elle est prise entre deux hommes, un beau légionnaire, c'est Gary Cooper, et puis un milliardaire, c'est Adolphe Manjou. On a beaucoup lu que dans la période Dietrich-Sternberg, il tourne sept films en cinq ans, de 1930 à 1935, on pouvait lire un peu comme des autoportraits de Sternberg dans tous ces personnages de protecteurs, Pygmalion, qui crée une une créature. Et pourtant, si on se réfère à ce que disait Sternberg, il disait presque comme Flaubert, Marlène c'est moi. Il dira Marlène n'est pas elle-même dans mes films, sachez-le, Marlène n'est pas Marlène, Marlène c'est moi, et elle le sait mieux que personne.
Elle le disait elle-même d'ailleurs. Elle le disait elle-même que Sternberg l'avait entièrement fabriqué. Mais alors ça part d'éléments physiques, ça comporte des éléments physiques, les dents arrachées, etc., pour creuser le visage, des choses comme ça. Mais c'est aussi, il la sculpte avec la lumière, parce que je crois que une des grandes forces de Sternberg, elles sont nombreuses, c'est le travail sur la lumière qui est extraordinaire. Emmanuel Burdeau disait tout à l'heure qu'effectivement il dirigeait les chefs-op. Quand il a fait l'émission Cinéaste de notre temps en France,
c'est ça que je faisais.
Il a dirigé lui-même les projecteurs. Il a réglé les éclairages lui-même. Il est le seul à avoir fait ça. Il est aussi le seul à s'être fait payer pour l'émission. Ce qui renseigne aussi.
Ça s'appelle D'un silence l'autre, et c'est voilà. Le film de Labarthe. Et c'est un des plus
c'est
beaux.
C'est Patrick Brion qui l'interroge.
Oui, absolument.
Le film est très très beau.
Ouais, c'est magnifique.
Et c'est de là aussi que Marlène aura tiré toutes les leçons, parce qu'il paraît que aussi par la suite elle ferait comme Sternberg lui-même dans les films que lui ne réalisait plus avec elle. Mais ce qui est étonnant aussi dans cette rencontre, je trouve, c'est déjà le fait qu'apparemment Dietrich n'était pas son premier choix pour L'Ange Bleu, et aussi le fait que Dietrich devient pour lui presque la culmination. C'est pas seulement un personnage, c'est quelqu'un qui va devenir une espèce de matière sur l'écran, avec, vous en parlez Emmanuel, le maquillage, les robes, etc. Et la lumière, effectivement. Et donc c'est le corps qui matérialise cette espèce de baroquisme dont on parle souvent d'Estenberg, jusqu'à un point où ça devient presque de l'abstraction pure.
Vous avez raison, absolument, sauf sur un point, à mon avis, c'est que ça ne pouvait pas être le premier Sternberg, puisqu'il ne la connaissait pas. Il vient des États-Unis, c'est une actrice qui n'a travaillé qu'en Allemagne, et contrairement à ce qu'on a cru longtemps, elle avait déjà fait des films, etc., mais lui ne pouvait pas la connaître. Donc quand il est arrivé à Berlin, il fallait une actrice allemande, puisque le film est parlé allemand, et donc on lui a montré, on lui a présenté la plupart des vedettes allemandes. Je crois que c'est Stanisen qui le voulait au départ, ça n'a pas été possible. Elle a été connue. Les autres non, donc il les a découvertes. Et un jour, il est allé au théâtre, au spectacle, au cabaret, ou je ne sais pas, une opérette, je ne sais plus. Et là, il a vu Marlène pour la première fois. Ça ne pouvait pas être son premier choix, absolument pas.
Alors évidemment, vous parlez beaucoup de la lumière, hein, vous l'avez dit, contrôle absolu de Sternberg sur ses chefs opérateurs, qui éventuellement ont un Oscar après, mais enfin, c'est quand même lui qui a tout fait. Mais comme toujours, dans le cinéma, on ne se préoccupe jamais assez du son.
Come on out of here. Come on. Oh, she's lost. Come down here.
It's warm.
Come down here or get out.
Don't be angry.
Down or not?
Count ten.
Well, haven't I counted ten before?
No.
One, two, three, four. I'm not going to count anymore. I'm tired. Oh, I'm tired.
Meow. Meow.
Vous Vous écoutez France Culture, c'est Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma, la lettre S comme Sternberg, dans une étude restée fameuse sur Anatane, une aventure de la lumière, qu'avait signé Claude Ollier pour les Cahiers du cinéma, c'était en 1965. Claude Ollier parlait du dernier film de Sternberg comme l'une des toutes premières œuvres du parlant. On en y reviendra peut-être, mais Sternberg n'a pas attendu d'avoir une liberté absolue pour expérimenter avec le son. C'est ce qu'on vient d'entendre, c'est cet extrait d'Agent X-27, une sorte de réponse au Matahari de la MGM, jouée par Greta Garbo. C'était toujours l'opposition entre la Paramount et la MGM. Marlène Dietrich contre Greta Garbo. Et on entend ici, c'est Marlène Dietrich qui fait le chat dans une partie de cache-cache avec un officier russe. Le film tout entier est une large expérimentation du son au cinéma, Pascal Mérigeau, et notamment de la musique diégétique. Hein, c'est-à-dire celle qui apparaît à l'écran ou dont on va comprendre qu'elle vient du film.
Il y a un moment qui correspond tout à fait à ce que vous dites, qui est un moment qui m'a toujours scotché. C'est le moment où Marlène efface caméra, ce qui arrive assez souvent, un assez gros plan. Il faudra parler aussi de l'échelle des plans.
On va en parler.
Très important. Et on entend un morceau de piano, et à ce moment-là, le plan suivant, où je ne sais plus si la caméra recule, on s'aperçoit que c'est elle qui est debout devant un piano, devant un clavier, c'est elle qui joue. Et c'est un moment absolument sidérant. Sur le son, L'Ange Bleu, c'est assez amusant aussi, parce que, comme c'est le premier film parlant allemand, je veux dire, il expérimente de façon très amusante. Une porte se ferme, on n'entend plus rien, mais une porte s'ouvre, on entend tout. Donc ça, c'est assez... Mais il s'amuse beaucoup avec ça. Mais sur le son, il y a même du son dans les... Moi, c'est un plan qui m'avait saisi dans Les Damnés de l'Océan. Bizarrement, pour faire comprendre qu'un personnage vient d'arriver, une mouette s'envole. Magnifique.
Oui, oui, bah c'est ça, on sait bien que le cinéma muet était déjà.
De toute façon, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais le cinéma, je crois que c'est lui qui a dit ça. Le cinéma n'a jamais été muet puisqu'il y avait des sous-titres, les intertitres.
Emmanuel Burdeau, c'est un expérimentateur, Sternberg, en permanence, enfin quand il peut, en tout cas.
Oui, je pense que c'est un expérimentateur et sans doute il l'était. Dès le stade des scénarios, je crois qu'il y a une anecdote, mais je suis pas sûr de qu'elle soit exacte, donc vous allez me reprendre, mais que un des premiers travaux pour lesquels a été employé Mankiewicz, Joseph Mankiewicz, oui, auquel Pascal s'intéresse beaucoup aussi, était de scander les scénarios de Sternberg, c'est-à-dire de transformer ce qui était, je crois au départ, une matière littéraire, disons non ponctuée, et de la ponctuer en acte dramatique, disons comestible par Hollywood, digérable par Hollywood, ce qui a sans doute rendu Sternberg furieux. On sait que pour Anatahan, même si personnellement je n'ai jamais su comment l'interpréter dans tous les sens du mot, il avait dessiné une espèce de charte qui donnait le trajet des émotions selon les différents.
Oui, un vaste diagramme en couleurs, personnage par personnage.
Un diagramme fascinant, mais un peu, à mon sens, qui est reproduit. Dans un fascicule, pardon, hors commerce qui accompagne la ressortie du film. Oui, c'était un expérimentateur à l'évidence, et je crois, comme vous le dites très bien, qui ne faisait pas de... Il y a une anecdote que j'aime toujours citer, alors, pardon à ceux qui connaissent déjà, mais il doit être quatre à écouter, et qui la connaissent déjà, pardon.
Ah oui, j'espère qu'ils sont un peu plus que quatre, merci Emmanuel Burdeau.
Non, mais quatre amis à qui j'ai rencontré, j'ai lu ça, je ne sais plus où, je crois que c'est un témoignage rapporté par un des futurs musiciens des Doors, qui a été l'élève de Sternberg lorsqu'il enseignait à UCLA. Et un des étudiants demande à Sternberg, « Monsieur Sternberg, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir cinéaste ?» Et Sternberg, et ça lui ressemble bien, lui dit « Écoutez, c'est pas compliqué, il faut connaître l'histoire de la porcelaine, il faut parler le sanskrit, le chinois, il faut maîtriser la peinture, il faut connaître les fonds marins, il faut connaître la psychologie féminine, l'étude des animaux, etc. Bon. » Et le type lui dit « Mais comment c'est possible? Vous avez appris tout ça pour faire des films ?» Il dit « Mais non, mais moi j'ai demandé à personne l'autorisation de faire des films. » Voilà.
C'est une anecdote qui est un peu située un peu partout dans le temps, mais oui, toujours Sternberg.
Qui est très bien, que moi j'aime beaucoup.
Mais ça correspond à une dimension, je pense, ce que disait Antoine. C'est-à-dire que les cinéastes qui ont commencé au temps du mai ont quelque chose de différent de tous les autres. Et ça se sent dans les films de façon très claire. Et il y a un côté, chez les grands cinéastes du muet, il y a forcément un côté expérimentateur. D'autant plus que c'est eux qui avaient la main sur les films. Et c'est ce qui a changé le parlant, c'est que c'est le système qui a mis la main sur les films avec l'arrivée du parlant, grâce au parlant. Et avant ça, c'est le cinéaste, c'est le créateur. Et donc Sternberg expérimente comme un malade, mais il expérimente pourquoi ? Parce que le cinéma est un art neuf, et que donc ils sont en train de l'inventer complètement. Et c'est une manière d'invention du cinéma. Ensuite, il a continué. Moi, c'est ce qui me bouleverse dans Anatahan, c'est ce type qui a tout connu, et qui repart de zéro pour faire le film qu'il a envie de faire. Et ça me fascine absolument. C'est quelque chose de très rare. mais vraiment très rares dans l'histoire du cinéma. Il y en a quelques-uns. Peut-être Coppola avec Tétro, d'une certaine façon. Hein, c'est ça. Mais c'est quelque chose. Ça n'est pas. Je ne donne pas un brevet de qualité. Hein, c'est ni bien ni moins bien. Mais c'est sûr que pour parler d'aujourd'hui, quelqu'un comme Scorsese ne pourrait pas faire ça. Coppola l'a fait, Sternberg l'a fait. Et ça, c'est bouleversant. Renoir ne l'a jamais fait, par exemple.
Mais effectivement,
c'est ce que Piala notait à propos de Renoir avec une grande justesse. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'à la fin de sa vie, il n'est pas reparti de zéro? Parce que personne n'y arrive et Sternberg l'a fait et c'est extraordinaire. Mais
il l'a fait d'une certaine façon, aussi contraint et forcé. Parce qu'au moment où on va en parler,
on va y venir parce que je sens que vous avez très envie. Vous avez très envie, Pascal Mérigeau.
Simplement, il y en a qui ne le font pas.
Vous avez très envie de parler d'Anatane, je le sens. Mais on va faire encore un petit détour par les films d'avant.
I am Mother Ginsling. This is my place. I hope you will find in it everything you desire. May I introduce Monsieur de Michaud? Will you be kind enough to give me your name?
My name is Smith. Poppy Smith. This is my brother.
Your name is not Smith, and he is not your brother.
That's beastly clever of you. I say, I've always wanted to meet you, Mother Ginsling. It's awfully nice of you to join us. I promised Mr. Smith a thrill, and by Jove, here it is. What do you have?
Thank you. I don't drink.
You don't drink, Mother Ginsling. Is your name Chinese or English?
Indeed, Ginsling is English. It's a nickname as common in this part of the world as the drink sold over the counter.
Why Ginsling? Why not Whiskey Soda?
There was a girl called Whiskey Soda, too. And another one called Miss Martini. And one called Scotch Highball, and another Benedictine. In other places, I might have been called Rose, or Violet, or Lily, or even Poppy. Excuse me, I have work to do.
Ce petit détour, donc, avant de venir à Anatane, une des rares réussites de Sternberg dans les années 40, The Shanghai Gesture, face à face entre Mother Ginsling, Ona Munson et celle qui se fait appeler Poppy Smith, Jane Tierney dans un tripot à Shanghai. Pourquoi cet extrait? Parce qu'il nous permet d'aborder, Emmanuel Burdeau, un certain nombre d'éléments stylistiques de Sternberg. On se souvient, peut-être pour ceux qui ont vu le film, de ce travelling avant vers le visage de Jane Tierney, et Sternberg est quelqu'un qui utilise volontiers et beaucoup plus que ses confrères le gros plan. Il y a l'utilisation du studio, tous les films de Sternberg ou presque sont tournés en studio, et le tropisme asiatique. Ce n'est pas pour rien qu'il ira au Japon de Sternberg, mais une Asie qu'il réinvente à sa fantaisie en studio. Il y a évidemment Shanghai Express bien avant Shanghai Gesture. Emmanuel Burdeau.
Oui, j'hésitais tout à l'heure sur la question que vous m'avez posée sur son côté expérimentateur, parce que même si le mot est absolument juste, il peut donner l'idée de quelqu'un qui s'est exprimé uniquement dans le grand art ou l'art pour l'art. Alors, ce que je trouve frappant en entendant cet extrait, ce que ça me remet en mémoire, c'est qu'il y a aussi quelque chose chez lui du feuilleton, quoi, de ces noms improbables, de la fiction, vraiment
du mélodrame aussi.
Du mélodrame. Hein,
ces films sont
presque
des grands
de la fiction pulp, c'est-à-dire de la fiction très, très cheap, Dylan avec des sentiments exacerbés. Voilà.
Des stéréotypes, des clichés, il joue volontiers avec ça.
Exactement. Et c'est vrai qu'il est à la rencontre entre les deux. Et sans doute aussi, ça vient du muet, c'est-à-dire quelque chose qui reste d'une tradition qu'on a l'habitude d'appeler foraine du cinéma, et en même temps, un expérimentateur, oui, de la lumière, comme sans doute il n'y en a pas eu d'autres dans l'histoire du cinéma. Il faut quand même noter, parce que Sternberg n'est pas oublié, mais c'est vrai qu'il manque des travaux sur lui, on trouve quand même, je pense qu'il faut les rappeler, dans les deux livres de Gilles Deleuze, il y a des pages extraordinaires sur le blanc chez Sternberg, chez Dreyer et chez Sternberg, c'est-à-dire le blanc comme ce moment de... La venue du blanc comme ce moment de l'abstraction. Bon, ouais, je me permets d'y renvoyer, c'est des pages absolument extraordinaires. Alors, pardon, qu'est-ce que vous... Excusez-moi, je me suis perdu.
Je vous parlais des différents procédés stylistiques.
Oui, pardon, voilà. Alors, il y a effectivement le rapport au visage. Bon, c'est le très grand cinéaste du visage. Et le blanc, c'est aussi ce moment où peut-être le visage se dissout et devient autre chose. Il y a dans Shanghai Gesture, et dans Anatane, mais dans Shanghai Gesture, déjà, et ça c'est vrai que Claude Ollier le dit remarquablement, cette fascination pour le lieu clos, ce microcosme, en plus ce Shankar Gesture, moi bon, je ne l'ai pas extrêmement bien en tête, mais c'était une sorte de tripot. Hein,
c'est, un grand casino.
Est construit en cercle concentrique qui descendent avec des nacelles qui permettent de monter.
Avec des femmes dans les cages.
Avec des femmes dans les cages, des nacelles qui permettent de faire monter et descendre des boissons. Des, voilà. Donc,
avec Marcel Dalliot au centre de tout ça comme croupier.
Rien ne va plus. L'idée d'un monde clos qui est lui-même, construit de certains cercles concentriques, monde clos qui, à l'intérieur desquels se rejoue d'une certaine façon l'histoire du monde. Et, vous le disiez en commençant, bien souvent, l'histoire du monde, c'est quand même l'histoire d'un jeu entre humiliation et orgueil, entre montée et descente, gloire et déchéance. Oui, ça, c'est extrêmement important. Et de ce point de vue-là, Shankar Gesture, pardon, reste très important. Et puis, c'est vrai, ce tropisme asiatique qui est une sorte de, je sais pas comment il fait, de syncrétisme, parce que c'est un peu Shanghai, c'est un peu Macao, c'est le Japon. Bon. Dont l'artificialité est plus qu'assumée, puisque Sternberg est célèbre pour avoir dit deux choses. D'une part, je crois que c'est en tête de son autobiographie, il dit qu'il a effectué des voyages pour vérifier si les pays qu'il avait filmés ressemblait en effet à ses films, donc il a fait les choses à l'envers, évidemment. Et puis concernant Anatahan, tourné entièrement en studio, bien que ce soit un film qui se passe dans la jungle, il avait émis, je crois, un seul regret de ne pas. Il disait c'est tout est de moi, sauf les vagues de la mer, dont il aurait aimé aussi avoir le contrôle. Donc là, c'est plus à ce stade-là, c'est plus qu'une sorte de posture. Il y a une passion déclarée pour l'artifice qui. Alors, la contradiction resterait à mieux décrire, mais qui, d'une façon assez mystérieuse, n'est pas, antinomique avec une forme de réalisme très, très, très prononcée.
Oui, à la réalité, il faut préférer l'illusion de la réalité, dira Sternberg. Fernando Gonzo.
Justement, je voudrais lire un petit passage qui est très amusant. C'est l'assistant réalisateur Suji Taguchi, donc d'Anatahan, qui parle du fait qu'il était surpris que Sternberg veuille faire la jungle dans un studio. Et il cite Sternberg qui dit « Tu vas m'objecter que chaque arbre y a été créé par Dieu ?» et qu'aucun homme ne pourrait en façonner de pareil. Mais je ne crois pas que les choses que Dieu a créées soient parfaites, du moins d'un point de vue artistique. Ce que je créerai de ma main sera artistiquement plus parfait. Et il ajoute l'assistant, sur le tournage, j'ai fini par me rendre compte que Sternberg était fou. Parce que, donc, effectivement, c'est assez amusant.
Ou alors qu'il était Dieu.
What sort of a Japanese was this? His name was Kusakabe. Said he lived alone on the island. The others had left when the war started. He'd been plantation foreman, exported copra. But the jungle had taken over. An unfriendly man. Unfriendly to us and unfriendly to himself. Imagine living on an island like this by choice, thousands of miles from nowhere. That's how we met Keiko. At first, she was only another fellow human being stranded on this pinpoint on the map. Then she was to become a female to us. And finally, a woman, the only woman on Earth.
Être en avance sur son temps ne vaut pas mieux que d'être en retard, écrit Joseph von Sternberg dans son autobiographie, parue en 1965, Fun in a Chinese Laundry. Ce dernier facteur, poursuit-il, est à mon avis entièrement responsable de la curieuse destinée d'une de mes œuvres, pourtant réalisée dans des conditions presque idéales. J'allais chercher fort loin ces conditions et crus les trouver au Japon. J'y tournais mon meilleur film. Ce fut mon plus grand échec commercial. C'est comme ça que Sternberg raconte assez brièvement l'aventure d'Anatahan. Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Burdeau qu'il pense trouver au Japon? D'ailleurs, il va trouver au Japon les conditions idéales pour avoir le contrôle total de son film, pour être le grand maître de tout.
Moi, je crois qu'on l'a dit un petit peu au début, c'est déjà, c'est pas Hollywood, bon, c'est un peu bête à dire, mais c'est ça. il rencontre un producteur, Kawakita, je crois, qui, dès avant la guerre, s'était proposé de produire des films qui donneraient une perception des rapports entre l'Orient et l'Occident qui aille un peu au-delà des clichés. Il avait produit notamment un célèbre film qui s'appelle La fille du samouraï, je crois, et un autre que j'oublie, pardon. Donc ce Kawakita le fait venir Sternberg à Tokyo, où le film doit d'abord être tourné. Et je crois que tout simplement, le fait que ce soit pas Hollywood, le respect particulier dans lequel le monde du cinéma japonais tient Sternberg à ce moment-là, sans doute aussi, et je le dis d'après les témoignages, l'attitude du Japon après la capitulation les portait aussi à une forme de mauvaise conscience et de respect à l'égard des artistes étrangers, tout ça faisant qu'on lui ouvre. Peut-être pas tellement, si le film était assez cher, mais qu'on lui, je dis pas en termes de budget, mais on le laisse absolument être libre de ses choix. Il est fort probable, pardon, que le fait qu'évidemment Sternberg ne parle pas japonais rend les choses difficiles, mais en même temps favorise cette position c'est un peu de même qu'à la Reine des Abeilles dans Anatan. Lui, c'est un peu le roi des abeilles.
Oui, il se méfie d'ailleurs. Il embauche deux interprètes pour être sûr que ce qu'il dit est bien traduit. C'est-à-dire qu'on lui traduit la traduction.
Mais les Japonais se méfient un peu des gens qui parlent leur langue. Hein. Oui. Encore parce plus à cette époque.
Parce qu'en général, ils la parlent donc, pas très bien.
Donc, ils se méfient beaucoup. Donc ça collait bien.
Ensuite, alors peut-être pour avancer un petit peu,
il faudrait déjà dire de quoi parle Anatan. Voilà, départ, c'est un incident, ça s'appelle l'incident d'Anatan, c'est un fait divers qui a fait beaucoup parler au Japon.
Oui, alors c'est un fait divers qui est rapporté dans un article de Life, juin 1950 ou 51, dont Sternberg prend connaissance, et c'est un fait divers qui continue à faire parler aujourd'hui au Japon. C'est intéressant de voir que le film continue à intéresser globalement personne, mais le fait divers continue à inspirer des travaux d'historiens, d'autres films, des romans, même écrits par des auteurs japonais de première importance. Bon, sur une petite île, comme vous l'avez, de l'archipel des Mariannes, qui existe, qui est Anatan, c'est un groupe de soldats, je crois qu'ils sont une quinzaine, 19 au départ, refusent la capitulation japonaise. Ils ne sont pas seuls dans ce cas d'ailleurs, hein. On les appelle des stragglers. Il y a des gens qui resteront hors du Japon jusque dans les années 70. Il en existe peut-être même encore, quoi qu'avec le temps, peut-être ils sont morts maintenant. Refusent de rentrer, soit pensent que l'annonce de la capitulation est une propagande américaine et donc
un piège,
soit pensent que si la capitulation a effectivement eu lieu, ils ne veulent pas retourner dans un Japon défait. Ils sont là, 19. Un soldat américain, semble-t-il, si je puis dire, un peu plus intelligent que les autres, réussit à les amadouer et à envoyer un bateau qui n'est pas un bateau de l'armée américaine, mais un bateau japonais pour pas que ça se donne lieu tout de suite à un échauffouré. Et donc, on finit par ramener ces gens sur l'archipel japonais. Et là, on s'aperçoit qu'ils étaient 19, plus ou moins, au départ. Ils ne sont plus que 14 ou 15 à l'arrivée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une femme parmi eux, Kasuko Iga, pour laquelle, semble-t-il, ils se sont entretués. Voilà. Si je puis dire, les photos qu'on a et qui nous montrent Kasuko Iga ne la montrent pas aussi belle, mais enfin, le cinéma est le cinéma, évidemment, que Akemi Negishi, qui interprète son rôle, le rôle de Keiko, dans Anatan. Les suites de l'incident sont tout aussi intrigantes, puisque, au fond, on ne sait pas, moi, j'ai pas réussi à savoir, et on peut peut-être le savoir, mais c'est pas évident. Ce que va devenir cette Kasuko Iga, est-ce qu'elle va faire la tournée des cabarets de manière très sternbergienne pour entretenir son mythe de femme fatale pour lesquelles les soldats japonais s'entretuent? Est-ce qu'elle devient cireuse de chaussures? Est-ce qu'elle devient tenancière de bordel ou prostituée elle-même? Est-ce qu'elle rentre dans sa famille? Tout ça est très mystérieux. De toute façon, Sternberg ne s'intéresse pas, lui, aux suites. Hein. Encore que la manière dont il conclut cet incident et le retour au pays a fait aussi débat. Lui, ce qu'il adapte, c'est la vie sur l'île où les soldats sont un petit peu moins nombreux que dans la réalité, et les rivalités entre ces soldats pour se disputer. J'allais dire les faveurs, mais c'est pas le bon mot. La possession de celle qui dans le film de Sternberg s'appelle Keiko.
Et qui est présentée, on l'a entendu à l'instant, comme la dernière femme sur Terre.
Alors,
la seule femme sur Terre. Ce qui complique les choses, certainement pour la réception japonaise du film, c'est que, Sternberg le dira beaucoup, lui ne veut pas du tout faire une histoire japonaise. Pour lui, c'est une histoire absolument universelle. Et surtout, il y a ce décalage extraordinaire pour nous aujourd'hui de cette bande-son, cette bande originale, cette voix off qui est dite par Sternberg lui-même et qui va commenter sans arrêt l'action. Dans ce qu'on voit, nous, dans la copie, on n'est pas japonais, les dialogues en japonais ne sont pas sous-titrés, on n'a que la voix de Sternberg qui souvent anticipe l'action, une manière de marquer à la fois le destin fatal, le fatum qui est dans toutes les œuvres de Sternberg, mais aussi de faire une distanciation, une manière de dire ce qui compte c'est pas l'histoire, c'est ce que vous voyez.
Oui, c'est ce que ce qui compte c'est le film. Et ça c'est le secret du cinéma, je veux dire, le cinéma n'est pas la réalité, évidemment, on ne cherche pas la réalité, et c'est ce que raconte Sternberg de toute sa carrière, je veux dire, c'est l'illusion qui compte, enfin c'est seul compte l'illusion. Moi je vais toujours penser à propos d'Alatane, qu'il était peut-être un peu secrètement déçu d'avoir tourné ce film au Japon. C'est-à-dire qu'il tournerait dans un studio ailleurs au Japon, ça serait encore plus. Je pense que ça lui correspondrait presque plus. Enfin, ça c'est un petit peu... Parce que, par exemple, Morocco, il n'a pas tourné. Et il racontait toujours que le sultan du Maroc lui avait dit « C'est formidable ce que vous avez fait au Maroc ». Il dit « Mais j'ai jamais mis les pieds au Maroc ». Et ça l'enchantait absolument. L'histoire est probablement apocryphe, mais c'est très drôle. J'ai toujours pensé qu'à Nathan, il l'aurait tourné en Norvège. Ça l'aurait encore... En parler, l'aurait encore plus excité, d'une certaine façon.
Emmanuel Burdeau.
Ce commentaire, il a un statut encore aujourd'hui. Il a un statut à peu près unique. Moi, je connais pas d'autres films.
Guitry, en effet, la même langue.
Mais c'est la même langue. Et par ailleurs, Guitry apparaît dans ses films. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce commentaire, il accompagne. Il n'est pas constant, mais il est presque constant. Et évidemment, il a fait beaucoup pour l'échec complet du film. D'abord au Japon et ensuite ailleurs, puisque ce commentaire recouvre bien souvent les dialogues japonais. Alors pour un spectateur japonais, ça devait être une expérience absolument impossible, puisque évidemment que l'oreille exercée à la langue japonaise ne pouvait pas ne pas vouloir entendre ce qui était dit derrière. Et ça devait être d'une part pénible et ensuite un peu agaçant, puisque je suppose que le commentaire de Sternberg était sous-titré en japonais, donc ça devait être un enfer. Mais en plus, comprendre le hiatus entre ce qui se disait et le commentaire... tantôt emphatique, tantôt narquois, tantôt ironique de Sternberg, voilà, faisait que le public japonais, que ce Japon, les quelques témoignages qu'on a encore aujourd'hui le disent, que ce Japon qui avait ouvert les bras, si on peut dire, à un de ses maîtres, se trouve un petit peu, en tout cas, a l'impression d'être tourné en ridicule, même si aujourd'hui on peut en avoir un autre sentiment, a fait beaucoup pour l'échec du film. Alors qu'aujourd'hui, ce qui nous semble particulièrement précieux, c'est qu'évidemment, à travers ce commentaire dit par un cinéaste, disons de la trempe de Ford, de Hawks ou d'autres qu'on n'imaginerait jamais se livrer à ce jeu de narration, on a l'impression d'avoir une sorte de confirmation absolue de ce qu'est la poétique des auteurs, pour dire les choses vite. Et puis il y a cet écart tout à fait qu'on peut mesurer même quand on parle pas japonais, entre ce qu'on voit et ce qui est dit, et le fait que tantôt Sternberg a l'air d'occuper la place d'un narrateur omniscient et tantôt de n'être qu'un des soldats sur l'île, puisqu'il dit là on ne sait pas bien ce qui s'est passé, dans quelles conditions tel ou tel est mort. Je voudrais juste ajouter une chose pour la brièvement. Devant l'échec du film, le producteur a décidé de distribuer une version dans laquelle ce commentaire serait dit en japonais. C'est une version que j'ai pu voir quand j'étais au Japon, au National Film Center de Tokyo. Et c'est une expérience très très curieuse, parce que le film perd absolument de son sens, puisqu'il s'agit cette fois maintenant de commenter uniquement lorsque le dialogue ne permet pas de comprendre l'action. Donc il y a moins de commentaires, on ne sait plus pourquoi. Enfin, c'est un massacre. Et ça, évidemment, le film n'a pas mieux marché quand il est sorti comme ça quelques mois plus tard.
Merci Emmanuel Burdeau, merci Pascal Mérigeau. Anatan, le dernier chef-d'œuvre de Sternberg dans sa version de 1958, hein, parce que Sternberg a rajouté quelques plans, la version intégrale et non censurée ressort mercredi prochain en salle et la version est restaurée et magnifique. On attend une sortie en Blu-ray qu'on espère accompagner du petit livre hors commerce édité par Capricci auquel vous faisiez référence Emmanuel Burdeau et qui sait un jour de votre propre étude sur le film, Emmanuel Burdeau. Pour patienter écouter l'étude passionnante de Sachiko Mizuno est disponible, je le signale, en ligne et en quatre volets sur le site du Café des Images dont vous vous occupez. Et puis vous publiez tout de même un article sur Anatan dans le nouveau numéro de notre partenaire Sofim. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Et puisqu'on parle de Sofim, après S comme Sternberg, R comme Russie.
Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерации. Я считаю мое дело сфальсифицированным и политическим, так как оно основывается на показаниях двух подозреваемых, которые были получены вначале под пытками. Им обещаны маленькие сроки. Вот. Со мной тоже велись пытки вначале. Самый страшный грех на земле – это трусость. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть.
Je ne reconnais pas l'annexion de la Crimée et l'occupation militaire de la Crimée par la Fédération russe. Je considère que mon affaire est un coup monté politique, car elle est basée sur le témoignage obtenu sous la torture de deux suspects. On leur a promis des courtes peines. J'ai également été torturé. Le plus grand péché sur Terre est la lâcheté. Je ne vois pas à quoi cela sert d'avoir des principes si vous n'êtes pas préparé à souffrir ou même à mourir. Pour eux. Cette voix extraite de la bande-annonce de The Trial, un film tout à fait passionnant qu'on a découvert au Festival de La Rochelle cette année, dont on espère toujours une sortie en France. Cette voix, c'est celle d'Oleg Sentsov lors de son procès en 2015, procès qualifié de stalinien par Amnesty International, et qui a vu le cinéaste ukrainien opposé, on l'a entendu, à l'annexion de la Crimée par la Russie, condamné à 20 ans de prison pour terrorisme. Depuis, on le sait, Sentsov a entamé, c'était le 14 mai dernier, une grève de la faim pour exiger la libération de l'ensemble des prisonniers politiques ukrainiens. Ce n'est pas le seul cinéaste à être persécuté par le régime de Vladimir Poutine. Kirill Serebrennikov, qui était en compétition cette année à Cannes avec Leto, s'est retrouvé arrêté l'an dernier, puis assigné à résidence. C'était pendant la fin même du tournage de Leto. Pourquoi Poutine veut la peau des cinéastes, demande en couverture, une très belle couverture d'ailleurs, avec un Kyle MacLachlan particulièrement décavé. Le dernier numéro de Sofim, vous y consacrez, Fernando Ganzo, une enquête, consacrée à la cinéphobie du pouvoir poutinien et comment s'y adapte le milieu cinématographique russe.
Parce que dans les cas de Oleg Sentsov, ici en France, on peut se poser plein de questions pour essayer de comprendre, et dont une de ces questions serait quelle est la réaction du cinéma russe devant cette tragédie. Et parfois, on a pu apprendre, la réaction peut venir de juste un homme, en l'occurrence Alexei Medvedev, journaliste et directeur de plusieurs festivals russes, producteur, et qui manifestait tout seul à Moscou devant la statue de l'écrivain Alexandre Griboyedov le 4 août, donc le 80e jour de la grève de la faim de Sentsov. Don Medvedev tenait un portrait entre les mains, silencieux, accompagné juste de quelques sauts où les passants déposent des fleurs. Il profitait du droit russe au piquet d'un seul homme pour soutenir Sentsov et sa pétition de libération des prisonniers ukrainiens parce qu'il avait demandé l'autorisation pour faire une manifestation. Vrai, mais les autorités refusent toutes ces propositions de parcours sous prétexte qu'il y avait déjà des manifestations prévues à ces endroits-là de la part d'autres organismes. Sauf que Medvedev appelle ces organismes-là et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il est évident qu'il y a une envie donc des silences sur la question Sentsov qui vient du gouvernement, mais aussi de la majorité des Russes pour lesquels l'annexion de la Crimée, il ne faut pas oublier, était une bonne chose. Et donc ils n'ont plus trop envie maintenant d'entendre parler des activistes comme Sentsov, aussi dramatique soit leur situation. Pour Poutine, c'est pire que ça. Il faut comprendre que Sentsov, c'est le résistant le plus insistant et le plus culotté, si on veut, contre ce qu'il considère être sa grande œuvre historique, qui est donc cette annexion de la Crimée. Mais donc, et du côté des collègues cinéastes de Sentsov, Alexander Sokourov était l'un des premiers à plaider pour lui lors d'une rencontre publique avec Poutine à la fin 2016. Le dialogue est disponible sur YouTube et il faut le voir, Sokourov se heurtait contre le mur bureaucratique. Il commence par dire « Je veux vous demander, Vladimir Vladimirovitch, quelque chose depuis le fond de mon cœur, trouvons une solution au problème d'Oleg Sentsov, 20 ans dans un camp de concentration de l'Arctique, je vous prie de trouver une solution. Comme cinéaste, Sentsov devrait être en concurrence avec moi dans les festivals, même si son point de vue politique est différent, mais pas dans une prison. » et Poutine de lui rappeler qu'il n'est pas condamné pour son travail artistique, mais pour son implication dans des activités terroristes, entre guillemets, comme cela a été prouvé au tribunal, ce qui est la grande question. Le dialogue se prolonge suite aux relances de plus en plus désespérées de Sokourov, en vain. Un choc pour le cinéaste, selon ses proches, de se voir si impuissant et de quoi décourager sans doute une réaction commune de l'industrie. Mais tout ça va changer en juin dernier. C'était lors du festival Kinotavre, le premier jour de cet événement d'une semaine, qui est un peu le grand festival de l'industrie locale, un appel est lancé à manifester en soutien d'Oleg Sentsov. On distribue des t-shirts, on discute beaucoup en coulisses. Les professionnels de la profession se montrent malgré tout réticents. On a même peur de prononcer le nom de Sentsov. Mais à la fin du festival, après avoir beaucoup discuté, expliqué la situation, le jour de la clôture, tout ce qui monte sur scène parle de Sentsov, devenant ainsi une cérémonie consacrée à sa personne. La preuve que l'attitude collective en Russie, oui, peut changer, juste en une semaine. Serebrennikov, c'est un cas très différent, mais témoigne peut-être d'une même réalité dans le rapport entre le Kremlin et le cinéma. Serebrennikov, donc, un cinéaste qui n'a pas de revendication politique, mais à succès, qui profite de sa liberté artistique aussi au théâtre pour faire ce qu'il veut, qui montre qu'on peut vivre en Russie de la même façon qu'à Berlin ou à Paris, avec la même liberté artistique et sexuelle. Le message de la part du Kremlin sera clair. Si vous êtes dans le monde de l'art, que vous travaillez avec des subventions et de l'argent de l'État, vous pouvez vous retrouver à la place des Serebrennikov. Mais pour comprendre ce climat, il faut remonter à 2012, quand Poutine change de ministre de Culture et nomme Vladimir Medinsky. Avant Medinsky, il y avait la place pour un cinéma peut-être plus critique, il y avait la place pour que des gens comme Andrei Tsangtsiev, au début des années 2000 par exemple, puissent surgir. Mais depuis 2012, la politique des aides publiques, presque indispensable pour faire du cinéma en Russie, est devenu un instrument du pouvoir. Si un film reçoit le soutien de l'État, ce film doit soutenir les valeurs de l'État. Pour Medinsky, il faut célébrer la Russie de Poutine et surtout pas la critiquer. Conséquence, une surabondance des films qui narrent par exemple les exploits sportifs et spatiaux de l'URSS et une certaine forme de censure indirecte mais très solide. Il y en a des résistants, il y a des jeunes cinéastes comme Kantemir Balagov, les jeunes réalisateurs de Tesnota, mais le constat qu'ils nous livrent est un peu accablant. Et je cite, « La plupart parmi nous ont du sucre dans les veines, pas du sang. Et ceux qui veulent dire des choses importantes doivent se débrouiller avec du crowdfunding, parce que le ministère de la Culture opère une censure très forte. J'ai l'impression de revenir au temps de l'URSS. Si la jeune génération n'a pas le courage de dire les choses haut et fort, on est fini. »
Нет, спасибо, мы не пьем.
Лето, я и шарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Ага. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага. Лето. Сегодня сейшн блен совета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Лето. Все хулиганы пригостят. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Лето.
Merci Fernando Ganzo. L'Eto de Kirill Serebrennikov qui se passe pendant la période soviétique dans laquelle Balagov a l'impression qu'on retourne. L'Eto donc sortira en salle le 5 décembre prochain. On espère toujours qu'un distributeur ou une chaîne télé aura la bonne idée de diffuser The Trial d'Askolkourov consacré au procès d'Oleg Sentsov. En attendant, le nouveau numéro de ce film sera en kiosque à partir du 6 septembre. Et puisque je vous tiens, Fernando Ganzo, je signale l'excellent livre collectif que vous avez dirigé aux éditions Capricci, livre consacré à Léo Macaré, à qui la Cinémathèque française a la bonne idée de consacrer une rétrospective depuis le 29 août, l'occasion en salle et en écrit donc de découvrir, redécouvrir l'œuvre d'un grand cinéaste hollywoodien, peut-être aussi méconnu que Sternberg, hein, finalement, malgré la renommée de classiques comme Les Deux, Elle et Lui, ou Une Sacrée Vérité, avec des textes notamment de collaborateurs de Plan Large, comme Charlotte Garçon et vous-même, de Marco Souzal, qui peut-être nous rejoindra un jour, et une préface de l'ami Whit Stillman. Le livre sera en librairie lui aussi jeudi prochain. Je vous rappelle la sortie donc événementielle d'Anatan dans sa magnifique copie mercredi prochain. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jacques Hubert. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Rafik Zénine. La semaine prochaine, si tout va bien, nous nous intéresserons à deux grands acteurs américains, Robert Mitchum, sujet d'un documentaire du photographe Bruce Weber, et Morgan Freeman. Les deux seront au Festival du film américain de Deauville, qui a commencé hier soir et où nous irons la semaine prochaine les rencontrer. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre. Лето, недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем.